Radio 1, premier sur l'info, le journal.
Avec MCM.
Et le journal de la mi-journée présenté par Antoine Samoyau, bonjour.
Bonjour Moreto, bonjour à tous. Des titres assez courts. Ce midi, la visite de la ministre de l'Outre-mer se poursuit. Elle est aujourd'hui aux Australes. Nous tenterons donc de retrouver Vaïté Ourari Pambrin qui est en direct de Rurutu ce midi pour en parler. Et puis Garou, le chanteur qui est arrivé hier soir à Tahiti avant son concert prévu vendredi soir, place Toata. A tout de suite.
Et on démarre ce journal avec la visite de la ministre des Outre-mer, Georges-Paul Langevin, qui se poursuit aujourd'hui aux Australes.
Et une première journée est passée hier à sillonner l'île de Tahiti et à rencontrer les autorités officielles du pays. La ministre a débuté son tour des îles ce matin. Georges-Paul Langevin s'est rendu à Rurutu, aux Australes. Plusieurs thèmes doivent être abordés par la ministre et notamment ceux de l'agriculture, de l'environnement, des infrastructures scolaires et de la formation des jeunes. Et pour revenir sur cette visite, nous sommes donc en direct de Rurutu avec Vaïté Ourari Pambrin. Vaïté, Yorana.
Oui, Yorana Antoine et Yorana à tous.
Alors, qu'est-ce qui a marqué la visite de la délégation ministérielle ce matin aux Australes?
Oui, effectivement, la délégation qui accompagne la ministre des Outre-mer, Georges-Paul Langevin, est arrivée ce matin sur l'île de Rurutu. Tout le conseil municipal était présent pour accueillir tout ce beau monde. Chant, danse, oréro étaient bien sûr de mise. La délégation s'est ensuite rendue sur le site de la direction du groupe scolaire à Mouerei, sur la terre Onemae, où vivait une princesse légendaire. Et d'ailleurs, la ministre des Outre-mer porte désormais son nom, Orovarou, comme le veut la tradition et en mémoire de leur princesse. Dans son discours, Frédéric Rivetta Tavana de Rurutu est ministre du développement des activités du secteur primaire, a tenu à remercier l'État pour le partenariat dont il fait preuve pour le développement des petites communes et, je cite, « disséminé sur un territoire aussi vaste que l'Europe et qui, plus que les autres, peuvent parfois paraître comme des parents pauvres de la République ». Et à ce propos, le Tavana de Lille a demandé à la ministre la mise en place d'un contrat de commune rurale qui permettrait la prise en compte de leur éloignement et de leurs particularités économiques, sociales et culturelles. Et ainsi, l'État pourrait les accompagner dans des projets d'investissement pour la jeunesse, l'environnement, la culture ou encore le patrimoine. Deux projets d'investissement importants ont été approuvés par le conseil municipal. La remise aux normes de toutes les canalisations d'eau potable du village de Aouki, ainsi que la construction d'une salle omnisport pour un montant global de plus de 200 millions de francs. De son côté, la ministre a tenu à souligner la qualité de l'accueil qui lui a été réservé. Elle a affirmé que la population et que le Fénois, malgré leur éloignement de Paris, on n'est en fait jamais très loin de leur cœur. Pour elle, la population a aussi, dans les îles éloignées, les valeurs républicaines et elle en est fière. Elles sont portées par des femmes et des hommes bien dans leur langue, dans leur tête et leur corps, a-t-elle affirmé. Voilà en fait ce qu'on peut dire de ce qui se passe ici à Rurutu. Antoine.
Vaïté, merci beaucoup. On se retrouvera également demain midi, depuis cette fois-ci Manille au Tuamotu.
C'est l'hiver à présent. Un enfant de 18 mois a été mordu par un requin pointe noire au Tuamotu.
Samedi dernier, sur la plage du village de Tupapati, sur l'atoll de Hikueru, une mère de famille vidait des poissons pêchés dans le lagon à côté de son enfant de 18 mois lorsque le bébé a été mordu à la jambe par un requin à pointe noire. Gravement blessé, l'enfant a été pris en charge par une adjointe au maire qui lui a prodigué les premiers soins. Le bébé a ensuite été transporté vers le dispensaire de l'atoll. Mais au vu de la gravité de ses blessures, il a finalement été évasané vers le centre hospitalier de Taoné. Son pronostic vital n'est heureusement pas engagé.
Un autre fait divers impliquant un enfant s'est produit samedi également au large de Tahiti cette fois-ci.
Ce week-end, au cours d'une partie de pêche en haute mer, un enfant de 6 ans est tombé à l'eau et passé sous le bateau de son père. Il a été grièvement blessé aux jambes par les hélices de l'embarcation avant d'être récupéré par son père qui l'a ramené jusqu'au quai de la Marina Taina à Punaoya. L'enfant a été évacué par les pompiers vers le centre hospitalier de Taoné. Il présente des plaies importantes aux membres inférieurs. heures. Et là non plus, heureusement, son pronostic vital n'est pas engagé.
Cap sur Paris maintenant, où le mythique foyer des étudiants polynésiens s'apprête à être vendu.
L'adresse est connue de bon nombre de jeunes polynésiens ayant étudié à Paris. Le 62 de la rue Monsieur le Prince est depuis des années le foyer de l'association des étudiants de Polynésie française, l'AEPF. Mais la semaine dernière, les membres de cette même association ont voté en majorité pour la vente de cet appartement. Arriéré impayé, espace trop petit, la liste est longue. Écoutez le reportage à Paris de notre correspondante Radija Benouataf.
37 pour, 5 contre, une abstention pour signer peut-être la fin d'une époque, celle du 62 rue Monsieur le Prince. Le foyer des étudiants polynésiens de Paris, dont l'AEPF est propriétaire, pourrait en effet être vendu sous peu. L'idée circulait depuis 2 ans déjà. Le foyer ne répond plus ni aux normes, ni aux besoins des étudiants, comme nous l'explique Jatsiou, présidente de l'AEPF.
On est beaucoup trop en termes d'adhérents. Et ça fait qu'un foyer de 60 mètres carrés, on n'arrive pas à les accueillir tous. Sachant qu'on fait des activités bruyantes, donc la danse, cours de musique. C'est pas non plus possible de le faire dans ce foyer. La cuisine non plus, elle n'est pas adaptée. Quand on fait nos ventes de plats, du coup, les cuisiniers, ils disposent pas de four ou de l'espace nécessaire. On a besoin d'un lieu de rassemblement où qui répond à nos besoins en termes d'activité.
Mais surtout, selon Paul L'Enfant, le trésorier, ces charges sont trop lourdes à supporter pour une association qui vit de la vente de plats et de galas de danse.
Il y avait les charges de copropriété qui étaient très très élevées, qui montaient dans les 8000 euros par an. Et c'est plus possible pour nous. Et puis comme l'a dit une personne qui est venue intervenir, qu'il y a 30 ans c'était pareil, et là enfin... On veut s'en débarrasser.
Et c'est une assignation au tribunal qui a accéléré les choses. L'AEPF doit en effet 11 400 euros d'arriérés de charges à la copropriété. L'appartement était estimé à une fourchette comprise entre 550 et 600 000 euros. Une somme qui devrait permettre de racheter un lieu plus adapté à des étudiants qui voudraient également un espace de coworking. Le projet ne fait néanmoins pas l'unanimité. Kenji, le secrétaire adjoint, a voté contre.
J'ai voté contre la vente de l'appartement parce que j'ai entendu dire par un ministre que les fonds qui ont été donnés pour l'acquisition du foyer venaient du territoire. C'était des fonds, des subventions. Et le territoire ne voudrait plus aider une association qui a voulu vendre un bien qui a été acquis par les subventions.
Tout n'est pas joué. Une alternative serait la rétrocession du foyer au pays.
Les étudiants veulent vendre le foyer, mais je ne peux pas me permettre de le vendre sans avoir rencontré les élus pour discuter d'une éventuelle rétrocession. Car si la rétrocession est plus avantageuse, alors on se tournera plus vers une rétrocession qu'une vente. Donc c'est deux options qu'on étudie.
En attendant une décision définitive, les étudiants ont un projet pour rendre hommage à ce lieu de mémoire.
L'AEPF Paris a pour projet d'éditer un livre de souvenirs, d'anecdotes, de mémoires du foyer, qui est un lieu mythique pour toutes les générations de Polynésiens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous lançons un appel pour que les anciens nous envoient des anecdotes et des souvenirs à partager avec les nouvelles générations.
Khadija Benouataf, à Paris, pour Radio 1.
Radio 1, il est midi 8, une courte pause dans ce journal. On revient pour parler de Garou, bien évidemment, qui est arrivé. On parlera également en féminisme et puis on aura notre page sport. Retour au journal, Antoine, et on reprend avec l'arrivée très attendue du chanteur Garou à Tahiti, ça y est.
Dès hier soir, le plus célèbre des chanteurs québécois et ses musiciens ont pu profiter de l'accueil polynésien avec une troupe de danseurs marquisiens. Garou s'apprête à donner un concert d'exception vendredi soir à Toata, un événement organisé par Radio 1. La semaine dernière, Garou et son équipe ont déjà ravi le public calédonien. Radio 1 était présent hier soir dès la descente de l'avion pour recueillir les premières impressions du chanteur. Écoutez.
Garou, c'est la première fois que vous venez en Polynésie aujourd'hui?
Oui, tout à fait. Ben non, deuxième fois en fait. Parce qu'on a fait transit l'autre jour.
C'est la première fois que vous restez plus d'une heure en Polynésie?
Ouais, c'est à peu près ça.
Ça s'est bien passé en Nouvelle-Calédonie?
Super. Vraiment, deux beaux concerts et c'était drôle. C'était deux concerts complètement différents. Le premier, ça faisait tout le mois d'août l'an dernier qu'on n'avait pas joué ensemble. Donc le retrouvail de l'équipe, on est une belle équipe familialement très soudée. Et ça faisait longtemps, quoi. On était sur une adrénaline, on était sur une énergie de plaisir autant que d'un peu de nervosité, je pense, de la part de certains où on avait envie de bien le faire. Et deuxième show, complètement autre chose, où c'était assis, tranquille.
Et dès ce matin, Garou a tenu une conférence de presse à l'Intercontinental. Le chanteur est également l'un des anciens coachs de The Voice. Il en a donc profité pour prodiguer quelques conseils aux jeunes talents qui veulent monter sur scène. Un métier pour lequel il faut, selon lui, apprendre à donner. Et cette capacité à être généreux, il dit l'avoir vu chez Teiva LC, l'ancien candidat de The Voice. Aujourd'hui coach de Tahitian Voice d'ailleurs. Je vous propose d'écouter Garou interrogé ce matin au micro de Samia Stambouli.
Ben pour les chanteurs, c'est sûr que qu'il faut se laisser emporter par la musique. Et en même temps, il faut savoir donner. Parce que l'objectif, c'est jamais de vouloir prendre. Il y en a trop qui veulent chanter pour prendre de l'attention. Mais l'important, dans la, c'est pas de prendre de l'attention, c'est au contraire, c'est de donner de l'attention aux gens, de leur amener du réconfort, de la fête, des émotions. Donc c'est un travail de donner la voix et non de prendre. Malheureusement, il y a trop de gens qui ont envie de prendre quand ils chantent. Ils veulent devenir une star.
Quel souvenir avez-vous gardé de Taïva pendant The Voice?
Taïva, ça a été sa façon de communiquer, une approche tahitienne. Une façon d'être généreux et d'avoir de faire avec du bonheur. Quoi. Et souvent, les chanteurs, ils ont toujours dit quelque chose de torturé. On sentait que Taïva, non, c'était juste la beauté de communiquer la musique.
C'était finalement votre premier contact avec la Polynésie?
Quelque part, oui, ouais, c'est vrai. C'était une bonne prémisse, en tout cas, pour déjà s'approcher de la Polynésie en musique dans l'année d'avant. Où j'arrive ici pour la première fois.
Un duo de prévu vendredi avec Taïva?
Non, on n'a rien de prévu, mais un duo de discussion, j'ai très hâte de le voir en tout cas.
Et si vous souhaitez voir ou revoir les images et les vidéos de l'arrivée de Garou à Tahiti hier soir, vous pouvez vous rendre sur notre site radio1.pf ou sur notre page Facebook Radio 1 Tahiti. Vous aurez d'ailleurs le plaisir d'apercevoir Garou faire la danse du cochon avec les danseurs marquisiens. Je vous le rappelle, les places pour assister au show de vendredi sont toujours en vente au carrefour de Aroé et Punaoya, à Radio 1 Faréauté et sur notre billetterie en ligne radio1.pf.
Et on revient dans ce journal sur une association féministe qui revoit le jour en Polynésie.
Dimanche dernier, à l'occasion de la journée de la femme, l'antenne polynésienne de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté a organisé une journée de rencontre et de partage à la Pointe Vénus à Maïna. Il s'agissait de la toute première manifestation organisée par l'association depuis le renouvellement de son bureau en novembre dernier. En effet, la présidente de l'association, Titawapeu, a décidé de remettre au goût du jour cette Ligue créée en 1981 par la regrettée Marie Thérèse Danielson. Depuis quelques mois, les 8 femmes qui composent le bureau œuvrent pour insuffler des notions sur le féminisme, l'émancipation et l'égalité des droits entre hommes et femmes. La priorité pour Titawapeu, c'est d'apporter de la connaissance et de la pédagogie. On l'écoute au micro de Tamara Sentis.
Surtout, notre premier objectif, c'est faire œuvre de pédagogie. Parce que souvent, on s'est rendu compte que les Polynésiens ne connaissaient même pas l'histoire de l'Océanie, encore moins l'histoire de la Papouasie occidentale. Donc, on a commencé à faire un travail de pédagogie, expliquer d'où venaient les problèmes, parce que si on ne connaît rien, on reste dans une certaine ignorance, et on sait bien que l'ignorance amène la violence. C'est comme dans les familles, comme dans les problèmes de couple. Tant qu'un homme, un Polynésien, alors je parle en tant que Tahitienne, croira qu'une femme vient de sa propre côte, vous comprenez cette image biblique, on ne va pas aller loin dans l'égalité des droits. Donc on veut vraiment faire œuvre de pédagogie auprès des hommes et aussi auprès des femmes, parce qu'il y en a qui trouvent que c'est normal que certaines femmes se font taper ou que la petite de 16 ans se prostitue. Or on est vraiment là dans une société complètement déphasée.
Si vous souhaitez prendre part vous aussi aux actions de l'association, vous pouvez la suivre sur la page Facebook WILPF Polynésie ou joindre les membres par mail à l'adresse wilpfpolynesia@gmail.com.
Et on termine avec notre page sport.
Premier sur le sport. Avec sporttahiti.com.
Au programme ce midi, nous parlerons athlétisme. Plusieurs Tahitiens qui se sont illustrés ce week-end lors du championnat de Nouvelle-Zélande. La parole est à notre spécialiste sportif, Tamatoa Tefau.
Yaurama à tous, on commence notre rubrique par le bilan de nos jeunes athlètes au championnat de Nouvelle-Zélande. Ils ramènent 8 médailles pour le Fénois. Guelani Patou s'empare de 2 médailles, une d'or et une de bronze au lancer du javelot dans les catégories cadettes et juniors. Même performance pour son frère Mahio Walter Patou. Il s'octroie 2 médailles lui aussi au javelot, de l'or chez les cadets et du bronze chez les juniors. Au saut en longueur, Torere Tenanahou récolte une médaille d'argent. Au triple saut, Théa Boyer arrache elle aussi une médaille d'argent. Et enfin, le jeune minime Teura Tupaya obtient 2 médailles, une d'argent au saut en hauteur et une de bronze au lancer du javelot.
Et dans le reste de l'actualité sportive, on parle tir à la carabine avec la première compétition de l'année ce week-end. Et on revient également sur la Coupe de Tahiti de rugby.
Samedi dernier s'est tenue la première compétition du tir à la carabine air comprimé. Une vingtaine de participants étaient au rendez-vous dans la vallée de Titioro. Deux spécialités en lice pour ce concours, le break barrel et le PCP sur une distance de 25 mètres avec trois calibres différents. En break barrel, c'est le jeune de 16 ans, Ameter Etear Itonoare Doum, qui remporte la victoire, et dans la catégorie PCP, c'est Stéphane Lowe qui bat ses adversaires du jour dans une phase finale très disputée. En terminant page sportive avec les résultats de rugby dans la première journée de la Coupe de Tahiti 2015, le rugby club du Pire Est s'est imposé face à Punaouia au score de 33-3 et Manoura a battu Faa sur le fil 17-16. Pour conclure cette rubrique, la rédaction de sportiti.com s'associe à la douleur des familles et proches des trois grands sportifs français et de l'équipe technique disparus hier dans le terrible crash d'hélicoptère en Argentine. On se donne rendez-vous demain et n'oubliez pas, vous pouvez suivre tout le reste de l'information sportive locale sur www.sportiti.com.